Nous commençons donc la première table ronde des adolescents des vulnérabilités avec donc Daniel Derivoy, psychologue Université de Bourgogne à Dijon. Merci Daniel d'être venu.
Bien, merci et merci pour cette invitation justement à discuter des adolescents difficiles, des adolescents dits difficiles. Et ça a été dit tout à l'heure, cette difficulté ne concerne pas que les adolescents eux-mêmes, ça nous concerne aussi en tant que professionnels, parce que nous appartenons, comme disait Nicolas Georgiev tout à l'heure, au même environnement que ces adolescents. Alors, des adolescents difficiles, mais dont on sait aussi que c'est la difficulté qui va nous mener vers ce dont ces adolescents sont porteurs. Nous-mêmes adultes, nous autres professionnels, des milieux différents, milieux sociaux, judiciaires, sanitaires et scolaires, nous rencontrons tout le temps ces adolescents dans nos institutions, nous les rencontrons aussi dans nos familles et dans nos quartiers. Ce sont des adolescents qui sont en quête d'idéal, en quête de sens dans un monde en mouvement. Alors, j'ai intitulé cette intervention « Adolescent du monde et idéal identitaire ». Pourquoi ? Dans Adolescents du monde, il y a beaucoup de choses. Quand on entend, dans un premier temps, on peut mettre des adolescents dont on dit qu'ils sont de banlieue, on peut mettre les adolescents dont on dit qu'ils sont des mineurs isolés étrangers, des mineurs non accompagnés aussi, on peut mettre ces adolescents qui viennent dont on dit qu'ils sont issus de l'immigration. Donc, dans un premier sens, ce que je mets derrière adolescents du monde, ce sont des adolescents qui sont d'origine sociale, culturelle, géographique différente. Ce sont des adolescents qui sont en quête d'identité dans un monde en mouvement. Cependant, il y a également un deuxième sens. Le deuxième sens, ce sont tous ces adolescents, les adolescents qui sont connectés au monde réel, qui sont également connectés au monde virtuel. Ce sont des adolescents que j'appelle des adolescents la génération Facebook. C'est-à-dire que les frontières ne sont plus les mêmes. Ce sont des adolescents qui ont accès à tout ce qui se passe dans le monde. Ce que j'ai envie de dire par là, il est question d'identité aujourd'hui, d'identité de ces adolescents, c'est que dans le contexte de la mondialisation, les adolescents n'ont plus que la famille, non plus que les institutions comme environnement pour construire leur identité, y construisent désormais leur identité dans ce que j'appelle l'environnement monde. L'environnement monde constitue un métacadre pour la construction identitaire de ces adolescents, pour les aménagements et réaménagements de ces adolescents. Et si vous êtes là, c'est que ce sont des questions qui vous intéressent. Vous voyez à quel point ces adolescents mettent à l'épreuve les familles. Ils mettent à l'épreuve les institutions, mais aussi ils mettent à l'épreuve le monde également, la transformation du monde. Pourquoi idéal identitaire ? Parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous en crise identitaire, nous sommes tous en crise d'identité, et cette crise d'identité ne concerne pas que les adolescents. Alors, s'agit-il d'une identité, d'une recherche d'une identité idéale ou d'une identité idéalisée? Et là, je vous invite à vous poser un certain nombre de questions que se posent les adolescents et que nous autres aussi, professionnels, adultes, que nous avons intérêt également à nous poser. Qui suis-je? Ce sont des questions qui sont posées parfois de manière manifeste, parfois ces adolescents se posent ces questions-là de manière sous forme de comportement. Qui suis-je? Quand on essaye de répondre à cette question, on n'est tout de suite pas satisfait. Déjà, quand on dit « où suis-je », il y a déjà un peu de jeu dans la question, parce qu'on peut être physiquement dans un endroit et être psychiquement ailleurs. Donc là, ça met un petit peu de jeu. Mais j'invite à se poser la question du « quand suis-je ». Pourquoi « quand suis-je » ? Parce que la question identitaire, dans la question identitaire, surtout pour les adolescents, il est question de l'héritage aussi identitaire. Parce que la question identitaire se pose en termes d'histoire personnelle, mais elle se pose aussi en termes d'histoire collective. Et nous verrons que cette histoire collective concerne la famille, cette histoire collective concerne les institutions, mais elle concerne également toute l'histoire collective du monde. La manière dont le monde global, va pénétrer le monde interne de ces adolescents, va pénétrer le monde interne des institutions, va pénétrer notre monde interne à nous, en tant que professionnels, etc. L'autre question que je propose, c'est la question de où en suis-je ? Là, alors là, c'est une question qui dérange, puisque ça permet de s'interroger sans cesse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'identité figée, mais tout le temps, ça se renouvelle. Où en suis-je de mon expérience avec moi-même, de mon expérience avec les autres? L'ensemble de ces questions, je les situe dans ce que j'appelle une géopolitique clinique de l'identité. Pourquoi? Parce que dans le contexte de la mondialisation, quand on se définit dans un rapport de force. Dans un rapport de force avec soi-même, dans un rapport de force avec les autres. Il s'agit pour les adolescents, dans cette quête identitaire, de tenter de symboliser à la fois leurs histoires personnelles, familiales, mais aussi des histoires collectives. Alors, ce qu'on va appeler l'idéal identitaire va se jouer entre deux grandes problématiques, la problématique de la mondialisation et la problématique de la mondialité. Alors, c'est un concept, le concept de mondialité, c'est un concept cher à Édouard Glissant, que j'utilise beaucoup. C'est un concept qui n'est pas très connu, justement, dans notre monde universitaire, en psychologie, etc. Mais c'est quand même une notion qui va nous amener à penser la pluralité des identités dans le monde d'aujourd'hui. Pour faire simple, on pourrait dire que la question de la mondialisation tend vers une sorte d'uniformisation des identités figées. Alors que la mondialité va, elle, apporter une pluralité d'identités. Ça va, justement, amorcer la question du vivre ensemble. Donc, dans quel sens je vais utiliser l'idéal identitaire ici? C'est dans le sens où cet idéal identitaire se joue à la fois entre la question de la mondialisation et la question de la mondialité. Je vous propose cette idée force. Pour considérer l'adolescence, l'adolescence difficile, ce qui nous concerne, comme étant un analyseur de cette mondialité-là. Pourquoi? Parce que les adolescents difficiles, les adolescents incasables, on les appelle de tous les noms, sont pointés du doigt comme étant des sources probable des problèmes sociétaux. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est parce que ces adolescents, comme nous, sont pénétrés, traversés par un ensemble de problématiques mondiales. On pourrait lister plusieurs problèmes de ces problématiques. Il y a la violence, il y a la question des migrations, mais là, on va plutôt s'attarder sur la question identitaire. L'identité, c'est une problématique mondiale. C'est une problématique adolescente et nous allons voir comment ces deux problématiques résonnent ensemble. Quand on va parler de la crise d'identité à l'adolescence, on est face également à une crise mondiale. Pour poursuivre la réflexion, je cite cet auteur, ce politiste Gramsci, qui dit « La crise consiste justement dans le fait que l'ancien monde meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. » Alors, il y a une autre version qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. » Alors, je vous invite à avoir ça en tête parce que ça va nous aider tout à l'heure pour une vignette clinique très, très courte que je vais vous présenter. Alors, parmi ces phénomènes morbides qui peuvent émerger, c'est là que je situe le phénomène actuel de la radicalisation. Ça, c'est l'un des phénomènes qui surgit justement dans ce clair-obscur. Nous verrons aussi, en tant que professionnels, comment nous pouvons travailler à l'émergence d'autres types de choses dans ce clair-obscur. Alors, rapidement, je n'aurai pas le temps de développer tout ça, puisque je pensais que j'allais avoir 30 minutes, on m'a dit que c'était 15, mais Donc, du coup, je suis désolé de passer rapidement sur cette question-là parce que j'aurais aimé développer avec vous cette hypothèse que je fais sur ce phénomène de radicalisation aujourd'hui. Pour moi, le phénomène de radicalisation résulte de ce que j'appelle une radicalisation identitaire de longue durée. C'est-à-dire, ça nous amène à réfléchir sur nos propres postures idéologiques, c'est-à-dire à ne pas chercher ces phénomènes de radicalisation uniquement chez ces adolescents, chez ces jeunes, mais aussi à les chercher dans nos propres postures. Hein, tout à l'heure, la vignette que je vais présenter nous permettra de réfléchir sur ces questions-là. C'est une résultante aussi de ce que j'appelle la pensée binaire, eux et nous, etc. C'est un ensemble de clivages comme ça, mais on n'aura pas le temps de développer tout ça. Je dis juste que cette radicalisation-là, identitaire, traduit un défaut de processus, un défaut de transitionnalité, mais c'est un peu rapide. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur cette vignette. Lila, que j'ai rencontrée en maison d'enfants à caractère social, Lila, une jeune fille qui va être fichée, signalée pour radicalisation. Nous verrons comment cette vignette nous amène à réfléchir non seulement sur le processus identitaire chez cette adolescente, mais aussi sur nos postures idéologiques, dont il faut faire un diagnostic si on veut faire un vrai diagnostic pour ces adolescents. Rapidement, quand il va rester 2 minutes, faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je propose quelques éléments d'anamnèse, quelques faits et quelques éléments d'entretien. Lila a 16 ans, elle est troisième d'une fratrie recomposée de 5. Les parents sont séparés à la naissance. Elle est placée pour carence éducative et affective, mais surtout, elle est placée parce qu'elle est parentifiée. Comme sa mère n'est pas disponible pour accompagner les enfants, c'est elle qui est mise à la place de la maman, c'est elle qui s'occupe des enfants, et elle va manquer l'école plusieurs fois pour cette raison. Alors, la mère, elle est chrétienne, dépressive, suite à un chagrin d'amour, hein, c'est important.
Il n'y a pas de lien.
Hein? Hein?
Non. Il n'y a pas de lien entre les deux.
Il n'y a pas de lien, mais il y a un lien. Justement, nous allons voir ça parce que je fais exprès de construire le cas de cette manière parce que ce sont les propos de la jeune qui va faire ces associations. Il y a un lien. Le père est musulman non pratiquant, ce sont ses propres termes. Le beau-père, il y a un beau-père dans l'histoire qui est chrétien non pratiquant. Alors, quelques faits, rapidement. Décembre 2015, elle décide de ne plus manger de porc. Juin 2016, elle se convertit à l'islam avec l'accord de sa mère, mais ne sait pas expliquer ce qui l'a poussée à le faire. Elle va décider de porter le voile, dit-elle, pour être acceptée dans la famille de son copain et pour se sentir appartenir à la communauté musulmane. Son copain se définit comme pratiquant, mais ouvert. Ce sont ses mots, hein, pratiquant, mais ouvert. Il lui aurait dit qu'elle n'était pas obligée de porter le voile. Pourquoi je dis tout ça ? C'est parce qu'on va voir un certain nombre de va-et-vient dans sa manière de se construire. Toujours en juin 2016, comme elle rate l'école, il y a une personne de son collège qui l'a vue sur le marché voilée sur un temps scolaire. Elle aurait dû être à l'école. Elle vendait des tissus que cette personne a associés au voile. Cette personne pensait que l'adolescente vendait des foulards, des voiles. Okay? En réalité, cette adolescente vendait du textile parce que sa mère a des problèmes économiques, elle voulait participer à l'économie, au fonctionnement de la famille. Et cette personne qui l'a vue a rapporté ce fait au principal, et le principal l'a signalé pour radicalisation. Hein. Elle a été fichée radicalisée. Alors, en entretien, quelques éléments, je reçois cette... Je la vois arriver, de ma fenêtre, je pouvais la voir arriver, voilée. Quand elle arrive dans mon bureau, elle enlève le foulard. Parce que, dit-elle, elle a chaud. Parce qu'elle n'avait pas encore mangé depuis ce matin. Et elle va me dire qu'elle porte le foulard, mais qu'elle veut s'en débarrasser doucement. Retenez cette phrase, elle veut s'en débarrasser doucement. Après, elle me dit qu'elle vient de quitter son petit copain, et je la cite, parce qu'il veut que je sois pieuse, droite, Mais moi, je ne suis pas droite. Je fume. Après cet entretien, donc on a convenu dans notre entretien pour réfléchir sur le sens de tout ça, le voile, l'identité, etc. Après, au deuxième entretien, elle va beaucoup se comparer à sa mère. Elle va dire, par exemple, je suis la photocopie de ma mère. Physiquement et psychologiquement, je suis comme ma mère. D'un côté, j'ai envie d'être comme elle. D'un autre côté, je n'ai pas envie, etc., etc. Alors, c'était un peu rapide, mais ce que je veux montrer à travers cette vignette, c'est que c'est une adolescente qui est dans une quête identitaire. Dans une quête identitaire, mais qu'est-ce qu'il y a à sa disposition pour construire tout ça? Il y a un emboîtement d'environnement, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a l'environnement familial. Nous avons vu comment, dans cet environnement familial, c'est un environnement familial qui est un peu défaillant. D'ailleurs, c'est elle qui est mise à la place de la maman. Donc, du coup, elle ne peut pas s'appuyer sur cet environnement pour se construire. Hein. Et il y a l'environnement institutionnel. Qu'est-ce que je mets dans l'environnement institutionnel? Il y a forcément la maison, il y a forcément l'école, mais il y a aussi toute l'institution religieuse, puisque c'est une jeune fille qui va essayer d'aller se chercher dans l'institution religieuse. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a un troisième niveau, ce que j'appelle l'environnement monde. Tout ça, ça fait trois niveaux où cette adolescente va chercher des signifiants pour tenter de mettre au travail son processus identitaire. Hein? Ce que j'appelle ici un signifiant de l'environnement monde, c'est le foulard, c'est la religion, c'est tout ce jeu qu'elle fait. Mais au fond, c'est une adolescente qui se cherche elle-même, mais qui va utiliser d'autres signifiants. Et j'attire l'attention sur le fait, sur l'attitude de l'institution scolaire. L'institution scolaire qui va développer une posture non pas d'accompagnement qui accueille la problématique de l'enfant, mais cette institution scolaire va adopter ce que j'appelle des postures radicalisantes. C'est là que j'invite à réfléchir sur nos propres façons de penser. C'est-à-dire que quand on a signalé aussi rapidement cette jeune, on n'était pas du tout en contact avec cette jeune. On était en contact avec des clichés, un certain nombre de choses, un certain nombre de signifiants que cette jeune a utilisé et qui a amené justement à un certain nombre de comportements difficiles. D'où cette nécessité de faire le diagnostic de nos postures idéologiques. Parmi ces postures idéologiques, il y a la pensée binaire, c'est-à-dire où cette adolescente se comporte comme on aimerait qu'elle se comporte, ou elle bascule dans la radicalisation. Mais au fond, là, c'est plutôt la manière de penser cette adolescente qui est radicalisante au lieu de chercher à savoir si cette adolescente justement essaye de basculer dans la radicalisation. Alors, c'est un peu rapide. Vers de nouvelles postures, ce que je prône, c'est qu'il faut inventer de nouvelles postures, faire le diagnostic de nos postures idéologiques, inventer de nouvelles postures. Et parmi les dimensions de ces nouvelles postures, il y a ce que j'appelle la géohistoire de la rencontre clinique. Géohistoire de la rencontre clinique. Si on considère cette adolescente, personne ne l'a rencontrée. L'institution scolaire ne l'a pas rencontrée, puisque l'institution scolaire est restée sur des clichés. Pour rencontrer cette jeune, il aurait fallu justement traverser un certain nombre d'histoires collectives qui empêchent l'institution d'accéder à ce qui est en jeu, à ce qui est en souffrance chez cette adolescente. Un deuxième élément, c'est ce que j'appelle l'analyse des niveaux micro, méso et macro du transfert et du contre-transfert. Nous sommes tous habitués à la question du transfert au niveau interpersonnel, micro, mais ce que j'appelle le niveau méso ici, c'est l'institution. C'est quand il y a un transfert qui se fait au niveau institutionnel. Ce que j'appelle macro, c'est quand il y a les histoires collectives, hein, idéologiques, qui pénètrent notre façon de regarder l'autre. C'est-à-dire que le principal de ce collège, pour moi, et ce qui était en jeu pour lui, en fait, et à travers lui, dans l'institution scolaire, c'est toute la dimension macro du contre-transfert. C'est-à-dire que l'institution scolaire n'était pas du tout en contact avec ce qui était en jeu pour ces adolescentes, mais était en contact avec un ensemble d'idéologies qui planent, un ensemble de signifiants mondiaux que cette jeune a utilisé pour tenter de se construire à défaut de trouver un environnement institutionnel, familial, étayant là-dessus. D'où l'idée pour moi, quand je disais au tout début que les adolescents ne se construisent plus que dans la famille, dans l'institution, se construisent dans l'environnement monde, entre la famille et l'environnement monde, il y a toute la question de l'institution, des institutions dans lesquelles nous travaillons, qui devraient, à mon avis, se comporter comme étant des interfaces. Interface, nous sommes habitués pour dire que l'institution est l'interface entre l'adolescent et sa famille, mais j'ai envie de proposer l'idée que l'institution, les institutions, sont aussi des interfaces entre la famille et le monde. C'est-à-dire qu'un ensemble de problématiques mondiales, l'identité, la migration, la violence, comment cet ensemble de problématiques mondiales peuvent pénétrer le monde interne des adolescents, mais s'il n'y a pas de filtre, les institutions devraient se comporter comme étant des filtres pour justement réguler la manière dont ces adolescents vont être frappés de plein fouet par la question, par ces problématiques mondiales. Je termine en revenant sur cette citation qui parle des changements adolescents, des changements dans ce monde en mouvement. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur, on a vu tout à l'heure, dans ce clair-obscur, il peut y avoir des monstres, des trucs morbides, mais en tant que professionnel, en tant qu'institution, nous pouvons travailler aussi à l'émergence d'autre chose, à l'émergence de la créativité. Alors, comment on va s'y prendre? Et c'est là toute la question qui nous intéresse. Avant de savoir comment on s'y prend, il faut déjà être convaincu que c'est possible. Il faut déjà être convaincu que c'est possible parce que nous sommes dans une ambiance qui nous porte justement à être fataliste, alors que non, dans ce clair-obscur, dans ce monde en mouvement, dans ce processus adolescent, il peut émerger des choses nouvelles. Dans le processus de transformation du monde aussi, d'autres choses nouvelles peuvent émerger. Et c'est là que je situe la question de la créativité. Donc, ni qui suis-je, ni où suis-je, et même ni qui suis-je et même où suis-je, en termes de questions qu'on peut se poser soi-même, qu'on peut inviter les adolescents à se poser, mais quand suis-je? Le quand suis-je, c'est une invitation à réfléchir sur l'héritage identitaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de choses qui nous disent comment être, qui on doit être, qui on doit être pour l'autre, et la question centrale, c'est où en suis-je, et c'est là-dessus que je situe la question de l'idéal identitaire. Voilà, donc j'espère que j'ai tenu dans les temps.
Tout à fait. Merci. Merci beaucoup.